Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous êtes bien sur Beurre FM et c'est Voix au chapitre comme chaque dimanche. Le plaisir d'accueillir ce dimanche Tassadi Timage. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être à notre rendez-vous hebdomadaire autour de la littérature, de l'écriture. Et vous allez nous parler ce dimanche de Fini d'écrire. C'est le titre de votre ouvrage. Il vient de paraître aux éditions Hors d'atteinte. Parler de vous, Tassadi Timage, c'est se rappeler qu'on se connaît depuis longtemps. On peut dire ça aux auditeurs, aux auditrices qui nous écoutent. C'était il y a 30 ans déjà. Et c'était votre premier livre, Une fille sans histoire. Et on reviendra sur Une fille sans histoire tout au long de ce Voix au chapitre ce dimanche, parce que il ponctue aussi votre livre qui vient de paraître. Vous êtes né à Argenteuil, vous avez publié de nombreux romans. Ce dernier, qui n'est pas un roman, qui s'appelle Fini d'écrire, qui vient de paraître en ce début 2020. Et vous nous racontez tout au long de vos écritures, pour pas toujours dire romanesque ou essayiste, en tout cas, de vos interrogations sur votre histoire, sur qui vous êtes. Votre nom pourrait l'indiquer justement. En partie, vous êtes né d'un couple franco-algérien et vous avez vécu en région parisienne, puis à Paris ensuite. Vous avez très tôt dit que vous étiez attaché à l'écriture, et puis on y reviendra aussi, parce que dans ce Fini d'écrire, il y a de très très belles pages sur votre mère qui vous rappellent aussi qu'il est important que vous écriviez, puisque elle n'a pas pu le faire, mais elle le dit avec une très jolie phrase que vous nous rappellerez dans un instant. Alors, ce livre qui vient de paraître, c'est justement toutes ces interrogations qui sont celles du passé, celles de votre vie, celles de la société en général. Votre histoire, elle vous hante toujours, t'as cette image, puisque elle est, je ne veux pas dire sombre, mais elle est très interrogative dans ce Fini d'écrire, votre histoire.
Je ne crois pas que mon histoire me hante. Pour mon enfance, tient une place importante, voilà, à la fois dans ma mémoire, mais aussi, je considère qu'elle peut éclairer non pas la suite, puisque nos vies ne sont pas écrites d'avance, mais en tout cas une certaine attention, je dirais une attention aux autres, une attention aussi à l'évolution de notre société, de ce pays. Avec ce que je relate aussi, c'est-à-dire le choix que je fais dans l'enfance assez tôt de l'écriture, pour avoir justement cet espace de liberté, de création, avec donc, un espace où la mémoire joue un rôle, mais où aussi je me suis pleinement saisie des pouvoirs aussi de la fiction, pour toucher, pour, je l'espère, donner à penser, faire réagir. Ça, je m'en suis rendu compte assez rapidement. Que mon univers, voilà, suscitait beaucoup de
d'interrogations,
voilà,
bien sûr,
et de réactions.
Et de réactions. Ouais. Mais quand je dis votre histoire vous hante, c'est pas dans cette idée que elle vous renferme. C'est l'idée que elle est importante pour vous. Être hantée par quelque chose, c'est donner de l'importance à cette chose. C'était pas du tout dans cette idée d'enfermement ou de noirceur, même si quelquefois il y a ces interrogations qui vous...
Parce que effectivement, je considère que de livre en livre, comme diraient certains, mes personnages, mes personnages sont des lutteurs. Voilà, bon. Samia, tu me connais, je perds le fil dès qu'il s'agit de dire des choses un peu personnelles, mais voilà, on va...
Ce que je veux dire, c'est que dans votre écriture, si l'écriture, elle est singulière, puisqu'elle est une part de vous, qui ressurgit dans...
Comme tout écrivain.
Comme tout écrivain, voilà.
Voilà, qui travaille à partir de son expérience aussi, voilà. De son vécu.
Ouais. Et voilà. Mais l'écriture, elle est essentielle pour vous. Je rappelais qu'en introduction, vous vous souveniez que c'était... très tôt que vous aviez eu envie d'écrire, mais votre mère, qui a une importance dans votre vie, comme chacun peut avoir, chacune peut avoir l'importance de porter sa mère qui n'est plus, ou sa mère qui est encore là, en tout cas elle nous accompagne, cette mère, elle vous a accompagné dans votre vie, et elle vous a même accompagné d'une certaine manière dans l'écriture, votre mère.
Elle a soutenu ce désir, et surtout, ce qui est important, je pense, pour tout enfant, elle a cru. Comme je le dis, c'est quand je lui dis, enfant, à 10 ans, je serai écrivain, que Voilà, on vit beaucoup dans les livres aussi, à la maison, chez nous. Et j'écris « Elle me croit, ma mère me croit ». Ma mère, je ne sais pas si on n'est pas toujours un peu injuste avec nos mères. Quand j'étais très jeune et que j'étais déjà bien engagée dans l'écriture, donc elle m'a écrit une lettre dans laquelle elle me disait écris, tu pourras exprimer ce qui m'a étouffée toute ma jeunesse et ma vie de femme, parce qu'en fait ma mère nous disait assez souvent qu'elle n'avait pas d'instruction, que sa mère l'avait retirée tôt de l'école. Et voilà, c'est cette espèce d'attente, d'espoir que nos parents peuvent avoir. Bon, moi je suis donc issue, on en a un petit peu assez de cette phrase, être issue d'eux, comme si nous on était plus issus que les autres. Mais c'est vrai que mes parents sont connus à l'usine, mes parents étaient ouvriers, mon père et ma mère. Et j'étais d'un milieu social... où il y avait un grand espoir qui était placé dans l'instruction, dans la culture.
Et dans la réussite.
Voilà, et dans la réussite. Bon, je veux pas. Ma mère, c'est, elle fait partie de ces mères qui inscrivaient.
Voilà.
Voilà, dès qu'on est arrivé à Nanterre, elle nous a inscrits à la bibliothèque municipale et on avait le droit, je le dis, on avait le droit de lire en mangeant à table. On avait le droit de lire, ce qui mettait quand même quelquefois mon père en colère.
Mais quand elle vous dit « écris », je me dis que toi, tu pourrais exprimer ce qui m'a étouffé toute ma jeunesse et ma vie de femme, comme vous venez de le dire, et qui est écrit là, dans votre livre. Vous avez retrouvé la lettre, et puis vous vous souvenez qu'au début, vous aviez...
M'insurge.
Voilà, vous lui répondiez que c'était pas pour elle.
Ouais. Ce n'est pas pour toi que j'écris. Alors, cette
vous en êtes
phrase que
de
j'ai
cette
retrouvée...
Phrase.
Hein, c'est... Ouais. Ah oui, j'en Bien suis revenue de cette phrase. Avec ce préjugé, je pense qu'ont beaucoup de jeunes écrivains au départ, hein, une espèce de une conception de la littérature. Oui, est-ce que je peux dire, ça serait trop fort de dire que j'en ai honte aujourd'hui, mais en tout cas, l'adolescente que j'étais, la jeune femme, estimait en tout cas que cet espace-là, c'était quelque chose qui m'appartenait. J'allais construire mon propre univers, j'allais forger ma langue. Et
vous n'avez pas eu
à distance de ma famille, de ma mère, et que l'univers aussi des livres, de la culture, finalement, oui, d'avoir peut-être eu ces préjugés-là à l'égard des siens, hein, mm-hmm. de sa propre famille. Voilà. Ma mère était une femme forte. Et
vous n'auriez pas eu envie de vous en excuser d'avoir dit ça
en fait, plus tard ? J'admirais ma mère pour autre chose
oui.
que ça. C'est-à-dire que j'ai été aussi étonnée qu'elle ait cette espèce de révérence de, et même de quelque chose qui s'effaçait. Parce que ma mère, j'avais beaucoup d'admiration pour comment elle s'est conduite dans la vie, ce qu'elle était, comment elle a lutté pour que nous, ses enfants, on était six, avec notre père aussi qui était ouvrier, immigré. Vraiment, elle nous a transmis et nous a inculqué avec notre père aussi.
Que vous soyez quelqu'un.
Oui, on n'était pas, comme le dit très bien et de façon très très belle et forte Aya Sissoko dans son roman Enba, ma mère. Donc, autre génération, autre immigration, elle dit, nous ne sommes pas enfants nous ne sommes pas n'importe qui, nous ne sommes pas personne ni enfants de rien. Voilà. Donc, ça, moi, dans l'enfance, je l'ai ressenti. J'avais des parents qui ne nous intimaient pas du tout, ni de se taire, ni de... On n'était pas dans la défiance, hein. C'était des années où... Voilà, où les parents y croyaient, et voilà. Je pense qu'aujourd'hui encore, hein, y a ces parents. Voilà. Mais c'est peut-être beaucoup plus difficile finalement, d'une autre manière.
Dans votre livre, ouais. Fini d'écrire, Tassa dit image, vous vous interrogez justement, ces questionnements que vous posez sont liés aussi à vos rencontres, au regard que vous portez sur cette société, sur le monde, et plus près de nous, effectivement, sur la vie quotidienne, la vie sociale. C'est des interrogations parce que vous posez, parce qu'elles sont injustes ou parce qu'elles sont voilà, il faut les exprimer un jour parce que on n'a pas tout dit.
Elles ne sont pas données. Ce que je veux dire, c'est que les choses ne sont pas données, elles ne vous sont pas offertes, hein, contrairement à ce qu'on peut entendre aujourd'hui. Par exemple, on parle beaucoup d'aujourd'hui qu'il faut avoir de la gratitude. je veux dire que tout ce que nous avons acquis, comment chacun s'efforce là où il est, là, quand il travaille, quand il écrit, quand il crée, quand il avance, quand il se construit, je pense que nous le devons à la fois à notre vitalité, à notre capacité d'espoir, de se projeter, et surtout de ne pas se laisser enfermer dans des représentations qui sont totalement issues de préjugés et
d'assignation.
Ouais.
Parce que justement, ces stigmatisations qu'on porte à ceux qui sont comme vous et moi, on va le dire comme ça, issus de l'immigration que vous n'acceptez pas, bien évidemment, mais en réalité, on vous renvoie toujours, vous, écrivaine, à cette stigmatisation. Vous avez ce sentiment-là? C'est une des interrogations que vous portez dans ce livre.
Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. Hein. Moi, je ne me défends pas d'être, au contraire, j'ai une fierté d'être l'enfant de cela.
Et c'est cette assignation qui vous...
Comme je le disais, on écrit parce que c'est un espace de liberté, de pensée, d'expression. Et ce qui pose problème, c'est quand on avant même de vous lire, parce que vous avez un nom qui renvoie à une histoire passée, et quelquefois à une actualité immédiate qui peut être négative, qui peut être inquiétante, vous êtes sommé en permanence de vous définir, de dire d'où vous venez.
En fonction du nom, t'as sa dite image.
Et puis d'où viennent aussi les vôtres.
Oui. Hein?
Parce que dans ce livre, c'est vrai qu'il y a une certaine colère. Alors moi, cette colère, j'ai l'impression de l'avoir quand même toujours eue, mais de l'avoir apprivoisée, et surtout, m'étant saisie de cet outil, le langage, connaissant aussi le pouvoir des mots, je me considère pas comme ayant été stigmatisée au point d'être dans un mal-être permanent. Et
comme peuvent l'être beaucoup d'autres dans le quotidien aujourd'hui.
Tout à fait. Et ça, par contre, je me sens, c'est vrai que j'ai mis en exergue de ce livre une parole, si t'es d'accord, Samia, que j'ai envie de lire, d'Anna Arendt, parce qu'elle est tellement, pour moi, elle signifie la façon dont s'est posée à moi ces questions dont tu parles et ces problèmes. C'est une vie sans parole et sans action et littéralement morte au monde. Ce n'est plus une vie humaine, car elle n'est plus vécue parmi les hommes. Donc Anna Arendt. Et pour moi, c'est vrai que ce que je raconte aussi, et ce que j'avais écrit dans un texte qui est paru dans la revue Esprit en 2001, c'est que j'ai été quand même dans cette illusion, brève, que je pouvais écrire tranquille. Alors, bien sûr, je dis, peut-on vraiment écrire tranquille? Qu'est-ce qui se passe pour un auteur français qui a grandi en banlieue, et on devrait pouvoir le dire incidemment. J'ai grandi en banlieue, voilà, dans une cité HLM à Nanterre, au Canibou.
Mais dès que vous dites ça, on vous renvoie à votre père algérien.
Mais ça ne me gêne pas qu'on me renvoie à mon père, puisque j'ai une fierté de mes parents.
Oui. Par contre, socialement,
on en reste là. C'est-à-dire qu'on en reste là. Et surtout... C'est particulier
et surtout
on vous dénie votre singularité. Je veux dire, nous sommes nombreux de cette génération à avoir écrit, et il y en a des jeunes auteurs aussi aujourd'hui, et j'ai perdu le fil, et voilà, ça va revenir, Samia.
Juste un mot, et on se retrouvera après une pause, mais juste un mot pour rebondir sur ce que vous dites, où effectivement vous êtes assignée à être la fille de cette cité à Nanterre, et il faut en sortir. Et peut-être qu'on va, dans une deuxième partie de notre rencontre, évoquer justement toutes ces interrogations qui fait que cette assignation est en permanence encore aujourd'hui, en réalité. On y revient dans un instant.
Voix au chapitre sur Beurre FM. Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM.
Une fois au chapitre, comme chaque dimanche, je rappelle que je reçois ce dimanche Tassadit Image et nous parlons de Fini d'écrire. Son ouvrage vient de paraître aux éditions Hors d'atteinte. Dans Fini d'écrire, Tassadit Image s'interroge justement sur, j'allais dire, ce devoir d'écriture. Je me trompe peut-être en le disant comme ça.
Là, tu fais référence peut-être aux titres sur lesquels on m'a beaucoup questionné. Ce fini d'écrire. On peut aussi l'entendre presque comme à l'école, l'enfant qui vient de terminer son devoir, qui dit bon, parce que je revendique quand même d'inscrire. Alors je revendique, je retire le mot revendiquer. Je me suis rendu compte que d'inscrire des visages, des noms, des lieux qui sont repérés, qui sont évoqués aussi donc du fait de l'histoire passée, guerre d'Algérie, histoire coloniale, mais aussi où une actualité sans cesse vient nous interpeller sur des questions de société qui sont pas forcément inintéressantes, mais pour lesquelles on estime que peut-être on n'est pas forcément pertinent pour répondre à tout. Moi, j'ai choisi l'écriture et la littérature, ce qui ne veut pas dire que je ne me désintéresse pas comme citoyenne de tous ces débats-là. Et voilà, j'ai encore perdu le fil. On continue.
On peut parler d'écriture engagée d'une certaine manière.
Oui, tout à fait.
Et dans votre écriture, vous avez publié un autre livre.
Ce que je dis, Samia, c'est que ce sont mes personnages qui m'ont engagée, en réalité.
Parce que vous avez publié un livre, c'était Presque un frère.
Aux éditions Actes Sud. Et c'est en fait à partir de ce roman, parce que j'ai écrit donc plusieurs romans, qui ne se passent pas en banlieue. C'est vrai que mes personnages sont toujours en train de s'arracher à une histoire familiale, à l'emprise d'un lieu. Mais je ne m'en défends pas, mais je ne vais pas non plus. Mes livres ont des intrigues différentes, des personnages différents. Bon, c'est vrai que certains ont des prénoms d'ailleurs. Et que immédiatement, ça semble convoquer une lecture particulière. J'ai envie de dire même que quelquefois, donc ce que je disais tout à l'heure, avant lecture. Quand j'ai écrit Presque un fer, j'ai été très étonnée. C'est un livre qui est paru en 2000. Très vite, on est le 11 septembre. Et d'ailleurs, j'écris en août 2001 un texte où j'interroge en fait ma place d'écrivain particulière, d'écrivain à laquelle on a renvoyé que avant même de me lire. En rangeant mes livres au rayon Maghreb Proche-Orient, que j'étais rangée là parce que j'étais d'une sensibilité particulière.
On savait déjà
ce qu'il y avait dans le livre, presque. Donc ça, c'est un défi pour un écrivain. Mais en même temps, on n'a pas envie de se laisser enfermer dans cette dialectique permanente et qui n'est pas sur... Et donc, après Presque un frère, j'ai eu des réactions assez violentes. Donc le 11 septembre était passé et à la fois on m'a demandé des comptes comme si ça avait été j'avais fait de la communication politique sur la banlieue alors qu'il s'agit d'un livre où l'on voit des existences, des individus qui sont enfermés dans leur histoire familiale, certes dans un quartier, mais ce que j'explore, moi je travaille sur l'intime, sur de quoi sont faits nos liens, dans une fratrie, la place de la mère, l'absence du père, le besoin d'amour, le besoin d'aimer et d'être aimé, enfin voilà, j'ai envie de dire que ce sont des thèmes universels, ce ne sont pas des thèmes de banlieue, mais voilà. Effectivement, il y a des personnes humaines qui vivent en banlieue. Est-ce qu'on est obligé de le dire en ces termes aujourd'hui ?
Dans cette manière d'écrire, vous avez toute cette sensibilité, cette émotion, même quand vous en parlez, Tassadit Image, et vous avez, dans Fini d'écrire, eu le besoin, parce que ça a été important, de parler d'une très très belle rencontre, on va le dire ainsi. Vous avez rencontré Kateb Yassine, qui vous a été plus que... il a été à vos côtés dans une bienveillance pour
dans
vous parler.
Dans une bienveillance, mais aussi dans quelque chose... En fait,
il était conseillant, il était bienveillant.
Mais par rapport à l'écriture, il m'a dit quelque chose de... Donc, si t'es d'accord, Samia, je peux lire le passage concernant Kateb. En 88, je rencontre ce grand poète nord-africain. À l'époque, il a 60 ans, le double de mon âge. Un soir, entre la Santé et Sainte-Anne, on parle en marchant. Kateb Yassine est partout chez lui, et moi, une étrangère à Paris, une fille de la banlieue. Il me demande de lui parler de ma vie, de mon père. Il a bien connu cette génération de travailleurs immigrés algériens, comme on reconnaît ses frères d'avoir partagé la même soupe claire, le litre de rouge sur un coin de zinc, pendant 30 ans, des années 50 aux années 70. Pour moi, il est cet écrivain qui n'a jamais pu déserter le monde, abandonner les gens. Un homme de la vie. Le manque de pain, de justice, de liberté pour les autres le tenaille sans cesse. Il lui arrive de ne plus écrire. Cela lui vaut régulièrement d'insinuantes critiques sur son travail et des ennemis plus sérieux, crédibles. À un moment, il me demande où j'en suis de mon roman. Je lui réponds d'un ton las et lugubre que je suis arrêté dans l'écriture. Il a un bref sourire et me donne ce conseil simple et énigmatique à la fois. Sors, va dehors et marche, dans la rue, au milieu des gens, marche, le temps qu'il faut, tu verras comme tout s'éclaircit. Tu rentres, les mots sont là. Ce que je veux dire aussi, c'est que c'est Kateb, quand je le rencontre, je ne suis encore jamais allée en Algérie, et qui me dit, fais le voyage, va en Algérie, et tu verras, voilà. Et c'est vrai que l'été suivant, je suis allée pour la première fois en Algérie en 88, quelque chose s'est dénoué, et j'ai pu terminer mon premier roman, Une fille sans histoire.
Et il a fallu cette rencontre pour que ça bouge.
Oui,
en vous ?
Oui, tout à fait. À la fois, et à la fois, quelle chance pour moi. Que j'ai envie de dire, non seulement un grand poète, mais ce type extraordinaire qui était Kateb, et qui me voyait comme fille d'immigrés, et avec beaucoup de... Bon, c'est aussi comme s'il m'avait dit, ben, ta légitimité, tu l'as, prends-la. Mais aussi ce lien avec l'Algérie, je le lui dois.
Il n'a pas lu votre livre, Kateb Yacine.
Il est mort, l'été 89, enfin, mon livre est sorti. Ouais. Il n'a pas lu mon livre, mais il l'avait lu. Je lui avais donné à lire mes écrits, et il m'avait encouragée. Voilà, et c'est grâce d'ailleurs à la fille de Tao Samrouche aussi, parce que le hasard, tu parlais des rencontres, mais le hasard a fait que j'ai trouvé sur ma route aussi... Laurence Bourdi, la fille de Tao Samrouche, et c'est elle qui m'a présenté Kateb. Mmh. Voilà, et je lui en suis vraiment très reconnaissante. Où tu es, Laurence? Voilà.
Parce que c'est vrai que la vie de chacun, chacune est faite de rencontres, et quand on est attentif et sensible à ces rencontres, parce que cette rencontre avec Kateb Yacine, elle date 88, et on est en 2020, et vous vous souvenez avec émotion en parlant. Et vous l'écrivez, vous avez inscrit cette rencontre dans un livre, donc ça restera dans votre elle reste donc dans votre mémoire. C'est important pour vous d'inscrire tout ce qui se passe en vous dans l'écriture
pour les autres.
Pour les autres.
Pour les autres. Je disais tout à l'heure que j'ai pris conscience que d'avoir dans cette littérature française. Mes personnages, mais aussi certaines vérités qui ne relèvent pas de la fiction, comme dans Une fille sans histoire, les événements du 17 octobre 61, comme aussi dans ce livre, inscrire ce qui s'est passé aussi en 2005 à Clichy-sous-Bois, avec la mort de ses enfants, inscrire Kateb Yacine. Oui, ça me paraît important. Ça me paraît important.
Beson, 17 octobre 61, la cité, le travail, tout le quotidien ressurgit régulièrement dans ce livre. Vous venez de le dire. Il ressurgit parce que il est important pour vous, et cette écriture devient une écriture engagée d'une certaine manière. Oui. Vous avez rappelé que vous êtes écrivaine et citoyenne, mais l'écriture, elle est citoyenne du coup.
C'est pour ça que je comprends, ce que je raconte à un moment, c'est comment m'a été renvoyé, mais peut-être tu vas y venir après, Samia, cette lecture quand même, où j'ai considéré que la focale était vraiment restreinte sur mes livres, enfin sur mon travail, sur mon univers, une lecture finalement que je considère aussi subjective, c'est-à-dire de m'inscrire dans, par exemple, le post-colonial, ou dans n'avoir que cette lecture-là, alors que j'estime que mon univers et mes personnages, que ce qui m'intéresse, c'est la personne humaine. Et bon, mais c'est vrai que l'histoire aussi, l'histoire, oui, vous engage, hein.
L'histoire vous engage.
On a une responsabilité, nous,
j'allais
les écrivains.
Vous poser cette question. Oui, l'écrivain a-t-il cette responsabilité d'écrire cet engagement ?
Bien sûr que nous avons cette responsabilité.
De dire le monde qui l'entoure, de dire ses travers.
Voilà. Et je n'ai pas pu faire autrement. Je crois que quand on écrit, on est traversé. En tout cas, moi, même si je dis que j'ai choisi l'écriture pour être tranquille dans un espace, là, j'ai envie de dire surtout d'avoir cette possibilité de faire un pas de côté pour peser les mots, parce que la parole publique ou participer au débat, c'est autre chose. Moi, je crois à l'écriture, au livre et à la puissance de la littérature pour dire d'une autre façon et en touchant aussi les gens, j'ai envie de dire malgré eux, en s'identifiant aux personnages. Et en étant pris aussi par la langue que vous avez forgée, c'est quand même ce que je poursuis aussi.
Écrire
et qu'elles disent quelque chose du monde présent, oui, j'espère. C'est pas de la science-fiction, mais bon, pourquoi pas. Même dans la science-fiction, il y a du politique.
Écrire, c'est aussi envie d'être lu, envie de vous entendre lire votre texte. Et j'aimerais bien que vous nous accordiez un temps de lecture dans un extrait que vous auriez choisi pour... donner à comprendre votre écriture. Oui. Parce que ça se comprend aussi, une écriture, évidemment.
D'accord. Ma mère l'a-t-elle su avant de s'en aller ? À la fin de l'été 2012, quelque chose m'est arrivé. J'ai reçu une phrase en plein visage. De livre en livre, tu ne nous désignes pas d'issue. C'est écrit noir sur blanc, dans une correspondance moderne, un courrier électronique, lu, relu, lu et relu. De livre en livre... Tu ne nous désignes pas d'issue. Dans les jours qui suivent, ces mots dégorgent leur suc, m'obsèdent. J'ai compris cette phrase instantanément, physiquement, comme un coup donné au plexus. La bouche ne prend plus assez d'air. Je suis sonnée. Semaine après semaine, c'est comme si l'astre du néant lui-même pénétrait lentement, avec ses rayons secs et froids, mon intérieur, mon sang, mes organes, ma rate, mon cœur, sans trouver de résistance. Tes livres, tous les personnages de ton œuvre, tendent à exprimer un malaise identitaire qui signifie ou réfléchit un corps social, le pays, malade de son histoire, colonial, migratoire. Mais je ne vois pas que tu nous en désignes l'issue. Signifié à Paris par qui de droit ? Je me représentais aussitôt mes livres posés entre les gens et le monde, les empêchant d'oublier pour avancer, vivre, rêver, se réjouir, insistant, menaçant. De livre en livre, tu ne nous désignes pas d'issue. Cette phrase, ces mots... infiltre mes assises, fragilise mes pas et mes mouvements dans la ville. De jour en jour, mon univers se démaille. Je lutte, fissure, fêlure, faille. Se figurer un îlot battu par les flots, le blason incarné de ma ville. Ne vais-je pas sombrer à un moment ? De livre en livre, tu ne nous désignes pas d'issue. Je veux comprendre. Je vais penser. Il faut répondre. Mais chaque fois que je prends un stylo pour écrire, j'entends. Tu ne nous désignes pas d'issue ? À quoi nous sers-tu ? Tais-toi. Je vais répondre, d'abord comprendre, il faut penser. Comment penser sans écrire ? Lorsque j'écris, je ne calcule pas le lecteur, c'est vrai. Je ne pense pas à sa santé, à son bien-être, à son moral. Son visage est flou, innombrable. De livre en livre, tu ne nous désignes pas d'issue. Cette phrase me hante et me sidère.
Elle vous fait mal aussi ?
Elle m'a fait mal. Elle m'a fait mal et j'étais à la fois très étonnée. Je me suis demandé pourquoi elle me faisait autant mal. Et peut-être que l'écrivain s'effaçait par rapport à la citoyenne ou tout simplement la personne. Parce que je trouve que ces dernières années, je vais dire le nous, Français, issus de l'immigration, maghrébine, mais pas seulement, hein, algérienne, peut-être aussi les autres immigrations, c'est sûr... Je trouve qu'on en a pris vraiment plein la figure. Et je raconte que d'un seul coup, je suis comme ma mère. Plus je m'inquiète plus qu'elle pour mes enfants, pour mes petits-enfants.
Pour l'avenir.
Pour l'avenir du pays, l'évolution de cette société. Et à la fois, je m'insurge. Et je me dis, ce n'est pas le rôle de la littérature de venir réconforter... rassurée, apaisée, et j'estime surtout que c'est peut-être, c'est aussi une focale qui restreint vraiment cette lecture-là. Mais pourquoi j'en parle, c'est que ça n'a pas été l'effet d'une seule lecture, c'est qu'elle est venue vraiment confirmer, signifier, résumer des lectures qu'il y avait pu avoir de mon travail et des réactions aussi.
Fini d'écrire, c'est le titre de l'ouvrage de Tassadit Image. Elle est l'invitée de Voix au chapitre ce dimanche. On la retrouve dans un instant.
Voix au chapitre sur Beurre FM. Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM.
L'invité de Voix au chapitre ce dimanche est Tassadit Image et nous parlons de Fini d'écrire. Ce livre vient de paraître aux éditions Hors d'atteinte.
Jeune maison d'édition, laquelle je dois beaucoup. C'est pour ça que j'ai quand même de l'espoir dans les générations à venir, là, les jeunes trentenaires, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on écrit, ça résonne pour eux, ça fait écho, c'est important.
Des éditeurs qui prennent le risque aussi de publier, d'éditer, du sens.
Tout à fait. C'est une jeune maison qui est située à Marseille, hein, même si, voilà, une fille à Marseille, une fille à Paris. Et elles sont extraordinaires, passionnées de littérature et aussi engagées.
Elles ont publié aussi un autre auteur qui vous
elles
ressemble.
Ont, ah, Mehdi.
Mehdi Charef, Rue Charef, des Pâquerettes.
Rue des Pâquerettes.
Nous avons eu l'occasion à Beurre FM, évidemment, j'ai eu l'occasion d'accueillir Mehdi Charef. Fini d'écrire, point d'exclamation. C'est pas un point d'interrogation. Donc, on n'est pas dans l'interrogation du titre, en tout cas dans le
on
titre.
On est dans une certaine rage, comme je
on est dans la colère. On est dans la colère, ouais. Évidemment.
On est dans la colère, oui. En sachant aussi que j'ai eu à lutter quand même ces dernières années, que je me suis détournée.
Il y a eu une absence hein, d'écrire.
Et je me suis détournée.
Longue absence de 5 ans.
C'est-à-dire qu'on ne peut pas être sur tous les fronts en même temps. Et ce que j'avais réussi à faire jusqu'à maintenant, peut-être aussi parce que je suis de plus en plus touchée et concernée, notamment par, ça y est, on va dire, là d'où elle vient. Mais c'est vrai que ce que peuvent vivre les jeunes dans les quartiers populaires. Bon, aussi, j'ai eu une profession dans le social où je me suis occupée de jeunes en difficulté, comme on dit, et dans ces quartiers-là. Et donc, je me sens de plus en plus présente à, j'ai envie de dire, au monde et à certains qui en ont bien besoin. Et donc, je disais tout à l'heure à Rent, alors est-ce qu'il faut parler publiquement, ben comme tu vois, Samia, c'est pas trop mon propre de parler. Je perds le fil, mais l'écriture, c'est j'ai choisi d'écrire. Et par contre, j'avais une certaine tristesse, oui, je pense. Donc, il vaut toujours mieux. C'est toujours, faut pas se tromper. La colère, c'est bon signe. Mmh. Voilà, il faut se méfier dans notre génération de la tristesse, pour pas dire une certaine mélancolie. Comme je le dis dans le livre, on a peut-être été triste pour nos parents. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Des existences qui n'ont pas été
faciles
et qui n'ont pas été valorisées dans tous ces débats auxquels on a eu droit. C'est de cette violence que je veux parler, qu'on a osé dire que à toute une jeunesse, on a subi. On a dit ça, on a subi vos parents et vos grands-parents, on a subi l'immigration dans ce pays. Hein, lorsque c'est l'immigration
a construit ce pays.
Tout à fait. Voilà, et fini d'écrire, donc je sais pas. Je parle de cette photo de ma mère aussi que j'ai retrouvée, qui lit. Elle avait peu de temps de loisirs pour lire, mais elle aimait beaucoup lire. Elle adorait lire des romans. Et donc, j'ai cette photo de ma mère que j'ai mise au début du livre, que j'ai remis au-dessus de mon bureau et que je regarde. Je n'arrive pas à voir ce qu'elle lit et j'ai l'impression qu'elle attend que... Parce qu'elle a perçu ma mère ces dernières années, j'ai perdu ma mère il y a 2 ans, en tout cas ces dernières années, elle me demandait régulièrement « Et ton livre alors ?» Elle avait perçu, et elle n'osait pas aller plus loin dans ces questions, mais je pense j'avais peur qu'elle soit déçue, que j'ai cessé d'écrire, et donc quelque part pour elle, c'était cesser de lutter dans un espace où elle pensait qu'elle n'avait pas accès, et qu'elle... voilà.
Et beaucoup d'émotions quand vous parlez, mais peut-être continuer sur cela. Tout à l'heure, vous rappeliez que vous aviez dit à votre mère que c'était pas pour elle que vous écriviez. Là, vous auriez envie de dire, j'ai aussi écrit pour elle.
Oui, pour elle, pour eux. Je veux dire, oui. Je disais tout à l'heure de, ils sont là. Enfin, je veux dire, ils ont vécu, ils sont là, et ce ne sont pas des fantômes. Hein. C'est pour ça que je dis attention à la mélancolie. Oui. La littérature. Elle rend vivant et garde la trace. Oui. Et je sais, j'ai écrit pour ça aussi, quoi. Garder, inscrire.
Mmh. Voilà. Et
inscrire
quand vous...
des visages, des noms.
Et quand ce fini d'écrire, qui vient de paraître, évoque votre mère, évoque votre écriture, évoque votre père aussi,
oui.
évoque la banlieue, évoque les quartiers populaires.
C'est chez moi.
Et chez vous,
ouais,
bien sûr.
C'est chez moi, que je peux emporter avec moi. Hein, je n'ai pas besoin d'y retourner, d'habiter dans la cité où j'ai grandi. C'est chez moi, ça me fait, ça m'a construit et ça compte. Voilà. Et c'est mon matériau et je ne vais pas me défendre d'aller puiser dans ce matériau. Hein, parce que j'ai entendu aussi ces dernières années...
Oui, il faut arrêter d'écrire sur...
Voilà, on a entendu ça. Hein.
Bah, si.
Ah, enfin des écrivains qui ne nous parlent pas de nous-mêmes. D'eux-mêmes, parce qu'en fait, ils ne savent pas qu'on parle d'eux. Quand on parle de nous, on parle d'eux.
Quand
on parle de ce que vivent les gens ici, c'est eux.
Ouais.
Hein et j'ai trouvé ça d'un cynisme et d'une violence...
C'est une négation de notre histoire.
Il y en a qui se vautent dans l'autofiction, et puis il y en a d'autres, forcément, quand ils utilisent le matériau de leur expérience, de leur vie, c'est du témoignage. Enfin, bon, je ne peux pas dire qu'on n'ait jamais qualifié mon écriture de cette façon, mais on parlait tout à l'heure de visibilité et d'invisibilité. Comme tout écrivain, je veux être lu, je considère que mes livres, et j'espère, et je m'en aperçois, alors beaucoup plus à l'étranger qu'en France, qu'on considère qu'avec d'autres auteurs, ça fait partie de cette littérature française contemporaine, qui intéresse, qui donne à penser, qui fait ressentir. Il faut qu'on soit sûr de ça, et que les jeunes générations aussi...
Et il y a des jeunes générations dans l'écriture qui savent...
Dans un de mes livres, d'ailleurs, je confronte les trois générations.
Vous parlez aussi de Faïza Guen. Faïza Guen, c'est remarquable.
Alors, Faïza a son propre univers. Elle a chacun des écrivains. Ouais. Et on essaie de nous mettre tous, parce que j'ai assisté à la... Je suis allée dans une librairie parisienne à la sortie du premier roman de Faïza. On avait la même éditrice, Isabelle Seguin, qu'on a perdue.
C'était Kif Kif Demain.
Et j'ai entendu... Parmi tous ces Parisiens, je suis désolée parce que je suis parisienne, j'aime Paris, mais maintenant je suis parisienne. Mais bon, tous ces gens qui étaient là, les tenants de la littérature, et qui lui posaient des questions ou qui avaient des réactions. J'ai l'impression que rien n'avait changé 20 ans après cette espèce de condescendance. C'est tout juste si c'était pas elle a appris à lire, à écrire, elle a son univers, elle a sa langue, Et quelque chose d'autre qui était de l'ordre peut-être, qu'il faut que je le prenne en compte, de la stupeur. C'est-à-dire, ils sont là, ils ont des choses à dire, ils sont créatifs, cette espèce de stupeur. Alors, faut faire confiance à l'évolution de la société. Je crois que les politiques se trompent, les mélanges sont faits. La France, la pluralité des visages de la France, elle est là. Il faut lutter pour pas rester. Il faut pas accepter l'invisibilité. Mais nous, écrivains, si un éditeur ne nous publie pas, si la presse qui est moutonnesque ne va pas ouvrir votre livre au moins,
on n'existe pas.
Voilà. Mais je me plains pas. Je me plains pas.
Un autre livre magnifique de Faïza Guen, c'était Les gens du Balto.
Oui, et que je n'ai pas lu. Mais
qui est absolument magnifique sur justement ce regard qu'elle porte sur la société. On cacherait le haut du livre, de la couverture, on voit son nom. Elle pourrait s'appeler Sophie Martin. Qui décrit des gens dans ce balto qui est un café au coin d'une rue. Et c'est absolument magnifique.
Mais on aime bien catégoriser. On étiquette, on fait des catégories. C'est quand même incroyable que dans le pays de la liberté d'expression, on nous le répète, que certains soient comme ça assignés, enfermés, et auxquels on dénie leur singularité. Hein. Voilà, Faïza, Mehdi, Mounsi, il y a eu toute une génération aussi, et puis la génération actuelle, chacun a... son univers, ses préoccupations, même si...
Et vous êtes les romanciers de la littérature française.
Ouais, parfaitement.
Voilà, cette affirmation avec le sourire et avec vraiment cette détermination de Tassa Ditimage pour son livre « Fini d'écrire » était l'invité de Voix au chapitre. Ce dimanche, c'est aussi une invitation à continuer d'écrire quand même, pour vous ?
Ça va revenir.
Ça va revenir.
Ça va revenir. Ouais.
Merci d'être venu ce dimanche à Beurre FM. Merci Tassa Détimage pour ce très beau livre, Fini d'écrire. Je rappelle qu'il vient de paraître.
Merci à Radio Beurre.
À Beurre FM. Il vient de paraître aux éditions Hors d'atteinte. Radio Beurre, c'est peut-être la nostalgie de notre rencontre
il y a 30 ans. Oui, tout à fait. Et le prix Radio Beurre quand même.
Et puis vous aviez, voilà, vous aviez eu aussi ce prix. Merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de Voix au chapitre. D'ici là, passez une bonne semaine.
Voix au chapitre sur Beurre FM.